tous les podcasts D3-8, radiogrenouille.com. Métamorphose. Bonjour à tous, vous écoutez le 12e numéro de Métamorphose sur Radio Grenouille. Je suis accompagnée de Pascal Henquin de Focus 21. Bonjour Pascal.
Bonjour Alima.
Et ce mois-ci, Pascal, on va parler de désobéissance civile.
Oui, en effet, la lutte menée par Gandhi pour l'indépendance de l'Inde, la lutte de Martin Luther King contre la ségrégation raciale des Noirs aux États-Unis, et plus récemment et en France, la lutte menée par les paysans contre l'agrandissement d'un camp militaire sur le plateau du Larzac, ou celle des faucheurs de GM contre l'introduction en France de plantes transgéniques, ont de ceci en commun. Elles ont été menées selon des principes de non-violence et de désobéissance civile. Nous allons essayer pendant cette émission de décrire par nos paroles et nos échanges ces personnes qui travaillent sur la mise en image de situations injustes, tout en franchissant les barrières de la légalité, pour faire avancer le droit. Ainsi, un bon procès n'est-il pas d'arriver à fabriquer une image efficace qui ralliera l'opinion publique à la cause défendue? Comme indiqué sur le site désobéir.net, conscient des limites liées aux modes traditionnels de mobilisation, les pétitions, les manifestations, qui ne nous valent que de trop rares victoires et n'attirent plus guère les nouvelles générations de militants, un réseau informel prenant de nouvelles formes de militance non violente et désobéissante se sont développés. Quid de leur modalité, de leur légalité et de leur victoire pour faire évoluer la démocratie? C'est ce que nous tenterons de développer dans cette émission. Alors avec nous, trois militants adeptes de la désobéissance civile non violente. Hugues Linhart, représentant du MAN en région PACA, le mouvement pour une alternative non violente. Anne Pessic-Lemery, faucheuse de chaises, qui lutte contre l'évasion fiscale mais aussi contre le réchauffement climatique. Et Cédric Héroux, agriculteur, qui agit contre les politiques migratoires déshumanisées. Alors Hugues, vous faites partie du MAN, le mouvement pour une alternative non violente, excusez-moi, et de l'association Coopération à la paix. Nous aimerions échanger avec vous et les invités autour de l'approche non-violente. Pourriez-vous nous apporter des éléments un peu théoriques et historiques sur l'action non-violente? Mais tout d'abord, comment êtes-vous tombé dans la marmite de la non-violence?
Bonjour. Alors, pour le côté historique, donc j'ai vécu ma jeunesse à Montpellier, dans les rôles, donc, et j'ai été fortement marqué par la lutte que tu as évoquée, là, des paysans du Larzac, donc une lutte qui a duré plus de 10 ans et avec une option clairement affichée de non-violence et qui est en soi un succès. Donc j'ai été marqué par cette lutte, par les gens que j'ai rencontrés, par ma présence auprès des paysans et des militants qui se retrouvaient sur le Larzac, et aussi c'était la période où à l'époque j'étais confronté au service militaire. Donc, ce qui m'a. Donc, j'ai fait le choix de demander un statut d'objecteur de conscience. Donc, voilà. Et donc, ça, ça a été peut-être le déclic de demander le statut, ce qui à l'époque n'était pas. Il fallait passer devant une commission, donc ce n'était pas systématique. Donc, il y avait une loi du statut des objecteurs de conscience qui n'était pas satisfaisante. Et puis après, l'engagement s'est poursuivi au travers des rencontres, des lectures, des. Voilà.
D'accord. Et du coup, vous êtes arrivé au MAN, dans lequel, ce mouvement dans lequel on peut lire sur le site, dans votre charte, vivre ensemble avec nos différences, nos intérêts divergents ou opposés n'est pas simple. Le conflit est une expérience souvent incontournable de la relation. Nous pouvons apprendre à le traverser et à le transformer pour qu'il ne dégénère pas en violence, mais qu'il devienne source d'évolution, de développement mutuel. Alors Hugues, pourriez-vous nous décrire un peu de manière théorique ce qu'est l'approche non-violente?
Alors là, déjà là, tu as cité deux associations, deux organismes. Je vais préciser donc le MAN, Mouvement pour une alternative non-violente, qui est un mouvement national, un petit mouvement. Et ensuite Coopération à la paix, qui est un regroupement en fait local, en région, dont le MAN local fait partie, mais avec d'autres partenaires qui sont, on va dire, dans la démarche de promouvoir une culture de non-violence, promouvoir les outils de la non-violence dans la société. Voilà.
Et du coup, de manière plus théorique, qu'est-ce que la non-violence?
Alors, on a cité, dans ton introduction, tu as cité la désobéissance civile. Je crois que, par exemple, la désobéissance civile fait partie, dans l'option non violente, d'une action possible que je situerais dans les actions, on va dire, de non-coopération. Hein. Dans la société, la loi est légitime. Elle sert pour autant à organiser la société pour défendre la justice. Quand elle remplit cette fonction, elle mérite notre soutien. Pour autant, il se trouve que la loi, parfois, peut cautionner des formes d'injustice, et dans ce cas-là, elle mérite notre désobéissance, ou même c'est presque un devoir, nous on dit, de désobéir à une loi qui nous paraît injuste. Et donc la désobéissance civile, c'est une démarche donc déjà d'objection de conscience, de prise de conscience, mais ensuite c'est une démarche dans la loi pour faire évoluer la loi, parce que la loi c'est pas quelque chose de figé, donc de l'améliorer, ou une loi qui nous paraît injuste, eh ben l'abroger et la remplacer par une autre. Et donc ça, c'est aussi la désobéissance civile, c'est une organisation, on va dire, collective. C'est pas simplement une démarche individuelle, c'est aussi de dire nombreux, il faut être nombreux pour conscientiser les citoyens. Mmh.
Et du coup, est-ce qu'il y a des critères un petit peu de non-violence ? J'entendais à l'occasion de s'exprimer John Paley qui prenait un exemple en disant, voilà, vous voyez devant vous John Paley, donc un militant non-violent de la cause contre l'urgence climatique, et qui prenait l'exemple justement de, vous voyez une famille qui est en train de se faire embarquer par des flics. Est-ce que vous avez des tomates à la main, vous êtes situé au-dessus, est-ce que vous, quand vous leur lancez des tomates, est-ce que vous trouvez ça violent, non violent? Et ça, c'est assez personnel et subjectif.
Alors c'est vrai qu'il faut examiner toutes les situations. Alors je voudrais revenir aussi un petit peu sur, tu as évoqué le conflit, et dans l'approche non violente, c'est vrai qu'il y a on va dire une réhabilitation du conflit, parce que nous ce qu'on dit, c'est que le conflit fait partie de la vie. Alors là aussi les contextes sont très différents. Si on parle de conflit interpersonnel ou bien de conflit social et tout ça, c'est très différent, donc il faut examiner chaque situation. Mais donc nous ce qu'on dit, c'est que le conflit il est présent et il doit se réguler, se résoudre, avec pas forcément un gagnant, un perdant, mais que les parties peuvent arriver à une solution gagnant-gagnant, on utilise ça, et qu'il faut apprendre à gérer ça. Donc c'est un petit peu ça l'option non violente, de dire voilà, il y a une façon de réguler les conflits. Alors aussi pour préciser un petit peu, je dis que au niveau du MAN, on est un petit peu dans tout ce champ d'action qui va du domaine personnel, du domaine des conflits personnels, du domaine donc qui rejoint l'éducation, et puis aussi dans le champ des luttes sociales. Nous, on dit qu'on est un mouvement de réflexion, d'action et aussi de formation. Donc, on essaye de tenir un petit peu tout ça. Alors après, c'est chaque situation qui demande à être évaluée, et pour voir s'il y a violence ou pas.
Et alors du coup, comment on peut s'opposer à l'oppression? Parce que dans les conflits violents, non violents, il y a justement, dans des situations de violence, on parle souvent de la position d'un bourreau vis-à-vis d'une victime. Comment on peut s'opposer concrètement à cette oppression?
Alors déjà quand voilà, on parle de bourreau, victime, on parle de, il y a le cadre aussi, et donc je pense que déjà la façon d'aborder le conflit, c'est de regarder les points de vue de tous ses partenaires, le bourreau, la victime et le tiers qui peut être le cadre, la loi ou... ensuite, au niveau des critères, tu as évoqué les critères aussi, là, je reviens un petit peu. La démarche non violente, c'est aussi une démarche transparente, c'est-à-dire que en amont d'une action, on affiche, on joue à visage découvert. Ça, c'est un des premiers critères qui me semble fondamental. Un deuxième critère, c'est que lorsque certaines actions, en particulier illégales, qui peuvent apparaître illégales, on ne sait jamais où ça va aboutir, mais ça peut aboutir éventuellement à des sanctions, à de la répression. Et donc là, l'option non violente dit qu'elle est prête à... Enfin, nous sommes prêts à assumer ces sanctions, à assumer ces conséquences, les conséquences de nos actes. Ça, c'est un deuxième critère. Ensuite, un troisième critère, c'est de dire on prévoit des actions qui respectent l'adversaire, c'est-à-dire pas d'humiliation, pas de dégradation. Alors là, la gamme est très grande, bien sûr, pas d'agression physique, mais c'est aussi pas d'agression verbale, donc faire attention au langage qu'on utilise, pas d'humiliation. Puisque pour nous, la violence, c'est un petit peu une négation de l'humanité de l'autre. Et donc, c'est un viol, c'est quelque chose. Et donc, voilà. Et même quand je parlais de conflit et de trouver des solutions à un conflit, donc la régulation du conflit, la résolution du conflit doit ramener un peu plus de droit, un peu plus de justice, c'est aussi on fait le pari de toucher aussi la conscience de l'adversaire et que lui aussi il peut éventuellement changer, il peut éventuellement évoluer, donc voilà, donc on parle d'éveiller la conscience de l'adversaire.
Oui, de rentrer en empathie avec lui et se faire sortir son humanité, enfin ressortir son humanité. Et si je comprends bien, donc, c'est les critères, c'est la transparence et l'enthousiasme aussi, et le côté rassurant qui peut permettre justement d'attirer le plus grand nombre pour défendre une cause. Mais concrètement, comment fait-on pour développer son intelligence émotionnelle et relationnelle ?
Alors là, on est sur le champ personnel, et c'est vrai que en tant que personne, on a notre raison. Mais on a aussi nos émotions, et donc et tout ça participe de notre être. Et donc les émotions, il faut déjà les accueillir, nos émotions, les contrôler. C'est pas quelque chose en soi de négatif ou de positif, c'est là, mais une émotion, elle révèle, c'est un peu un signal sur la personne, donc la colère, la peur, et donc ça correspond des émotions souvent à des besoins qui sont pas satisfaits. Donc nous on essaye de dire, il y a tout un travail à faire là aussi, au niveau interpersonnel, personnel. Donc j'ai parlé tout à l'heure de formation, par exemple le MAN, qui est un mouvement qui existe depuis le début des années 70, ça fait une vingtaine d'années, à développer un organisme de formation, un institut de formation du mouvement pour une alternative non violente, dans lequel on intervient alors auprès de toutes sortes de publics. Ça peut être des publics d'enfants, des publics scolaires, auprès d'adultes, pour justement aborder ces questions. Et dans nos formations, la prise en compte des émotions est quelque chose d'essentiel dans la régulation du conflit.
Donc vous dites c'est même un savoir-faire à développer dès l'enfance, et vous intervenez dans les écoles, je crois. Et est-ce qu'il y a des exercices, des jeux un petit peu qu'on peut citer qui permettent ce genre d'entraînement?
Bien sûr, il y a des exercices, nous on travaille beaucoup avec des mises en situation, avec du théâtre forum, du théâtre interactif. Il y a aussi un certain nombre de jeux coopératifs, c'est-à-dire ce sont des jeux qui incitent à la responsabilisation. On joue ensemble pour un objectif commun et non pas contre un adversaire ou pour éliminer ou pour écraser un adversaire. Donc ça, on utilise beaucoup. Il y a une panoplie d'outils. Donc nous, c'est notre rôle de dire... Alors, ce que je voudrais aussi préciser, c'est qu'on a parlé au début là, de l'émission de désobéissance civile. Ça implique un engagement assez important, puisqu'il peut y avoir des sanctions, il peut y avoir... Mais l'option non violente, il y a un tas d'actions très diversifiées qui vont de les actions de les traditionnelles, manifestations, informations, persuasions. Et donc, à chacun de trouver la place qu'il peut mettre. Simplement, nous, ce qu'on dit, c'est bien réfléchi en amont. Et je crois que, en particulier dans les luttes sociales, il est très important de cette préparation des manifestations, de quels mots on utilise, quelle méthode d'action. Il faut savoir aussi que dans des mouvements de masse, eh bien, il peut y avoir tout le monde n'a pas participé à la préparation, donc il faut se prémunir de ça. Et moi, je suis persuadé que dans un mouvement collectif, s'il y a 90% des personnes qui sont dans la démarche non violente, alors on ne sait pas après qu'est-ce que ça peut donner, mais il suffit de quelques personnes qui n'auront pas cette démarche pour casser le mouvement. Et on sait que qu'est-ce que va retenir l'opinion publique, et avec le jeu des médias et tout ça, c'est le côté de la toute petite minorité qui est violente et qui discrédite un peu la cause. Mmh. Donc ça, il faut aussi le savoir, il faut s'en prémunir, il faut s'y préparer. Donc il y a un côté préparation des manifestations qui est importante.
D'accord, et vous le soulignez, le rôle important des médias dans les actions de désobéissance civile, c'est, et notamment comment se comporter et en même temps former des médias activistes en fait, pour couvrir tout ça. Je voulais aussi un petit peu faire un petit aparté sur justement, on dit toujours, enfin la police met toujours la pression en disant on n'a pas le droit de filmer, on n'a pas le droit de les filmer, etc. Est-ce que on peut en parler un petit peu par rapport à ça? Est-ce qu'il y a des réponses à faire aux policiers ou quand ils mettent la pression par rapport à ça?
Bien sûr, il y a des réponses à faire. En fait, c'est alors pour revenir aux médias, je crois que l'opinion publique, la démarche de l'option non violente, c'est de dire que c'est important l'opinion publique. On cherche à se rallier l'opinion publique, mais à la cause, au fond du problème, et non pas sur les méthodes et ce qui risque de déraper ou pas. Donc c'est important de savoir utiliser, entre guillemets, c'est pas le terme, mais de d'approcher les médias. Il y a déjà beaucoup de médias et de gens, d'activistes qui font cette démarche de transparence et de venir nous trouver. Il faut se rallier les médias plus globalement toute l'opinion publique. Donc les médias sont un vecteur important, mais là aussi il ne s'agit pas d'utiliser les médias pour critiquer l'adversaire ou humilier, mais simplement pour rester sur l'objet du conflit, le fond toujours, et pas les personnes ou les agents de la justice, on va dire.
D'accord. Et apparemment, il y a une étude du MIT là, qui a été réalisée récemment, qui montre, qui porte sur plus de 300 conflits, qui montre que justement les luttes non violentes ont deux fois plus de succès en fait que les conflits violents. Vous en avez entendu parler de cette étude ?
Alors, moi ça me gêne. Enfin, j'ai pas entendu parler de cette étude, mais souvent on nous relance souvent la question de l'efficacité. Et en fait, c'est pas pour autant parce qu'on a fait le choix de l'option non violente que ça sera plus efficace. Simplement, moi je pense que c'est pas un état la non violence, c'est une dynamique. On part du réel et on essaye d'aller vers quelque chose de mieux. Comment va évoluer la situation, l'action et tout ça, il faut accepter cette part d'incertitude. Moi, ce que j'ai pointé un petit peu tout à l'heure, c'est la difficulté de tenir deux choses ensemble, une option qui est, on va dire, non violente et une option qui serait violente, même si elle est minoritaire. Ça, c'est une sacrée question. Ça, je pense qu'elle se discrédite l'une l'autre.
Bah écoutez, merci beaucoup Hugues, et puis on reviendra dessus tout à l'heure au cours de l'émission, en réaction aussi au témoignage des deux autres personnes. Et puis, cette discussion nous permet de voir que la désobéissance civile appliquée dans un cadre non violent permet différents niveaux d'engagement, comme vous l'avez rappelé, et d'impliquer justement le maximum de gens et de rallier l'opinion publique à votre cause. À présent, un chanteur bien connu, HK et les Saltimbanques.
Sans haine, sans armes et sans violence, de résistance en désobéissance, c'est une évidence, nos vies n'ont plus aucun sens, depuis que nos rêves sont indexés sur le prix de l'essence. C'est une évidence, nos vies n'ont plus aucun sens, depuis que nos rêves sont indexés sur le prix de l'essence. La fronde commence sur cette place, ces casques lourds qui nous font face, nous les défions, folie ou inconscience, sans haine, sans armes, sans violence. Nous sommes d'une espèce non protégée, notre obsolescence est programmée. Nous devons disparaître de leurs étals avant liquidation totale. Nous devons disparaître de leurs étals avant liquidation totale. Sans haine, sans armes et sans violence, de résistance en désobéissance, c'est une évidence, nos vies n'ont plus aucun sens, depuis que nos rêves sont indexés sur le prix de l'essence.
C'est une évidence, nos vies n'ont plus aucun sens depuis que nos rêves sont indexés sur le prix de l'essence. Sans aucune condition de ressources, ils voudraient que l'on parte au pas de course, acheter des biens de grande consommation au premier tir de sommation. Que nous leur portions cette marchandise, objet de toute leur convoitise, leur précieux, leur cœur de cible, du temps de cerveau disponible. Oh qu'ils chérissent tant ce cœur de cible, ce temps de cerveau disponible. Sans haine, sans armes et sans violence, de résistance en désobéissance. C'est une évidence, nos vies n'ont plus aucun sens depuis que nos rêves sont indexés sur le prix de l'essence. C'est une évidence, nos vies n'ont plus aucun sens depuis que nos rêves sont indexés sur le prix de l'essence. De la sainte finance, toxicomane accro à la croissance. Nous sommes de ceux qui vous désobéissent, la plèbe blasphématrice. Jetez-nous l'opprobre, jetez-nous la pierre. Vos grenades suffiraient-elles à nous faire taire? Croyez-vous que nos combats soient périssables, nos engagements jetables? Croyez-vous que nos combats soient périssables, nos engagements jetables? Sans haine, sans armes et sans violence, de résistance en désobéissance. C'est une évidence, nos vies n'ont plus aucun sens depuis que nos rêves sont indexés sur le prix de l'essence. C'est une évidence, nos vies n'ont plus aucun sens depuis que nos rêves sont indexés sur le prix de l'essence. Sans haine, sans armes, sans violence. Sans haine, sans armes, sans violence. Sans haine, sans armes, sans violence. Sans haine.
Vous écoutez Métamorphose sur Radio Grenouille. Et maintenant, je vous propose d'écouter l'interview qu'on a réalisée de Hadid Kadour, réalisée par Sandra Blondel de Focus 21 à l'occasion de sa venue à Marseille en décembre dernier.
Tu disais que ton arme, toi, c'était la musique, mais en fait, toi-même, avec la musique, tu as fait des actions de désobéissance.
Ah oui, mais c'est génial. J'ai eu la chance d'avoir ces copains-là, d'Alternativa, de l'ANV, qui m'ont un peu embarqué à l'automne dernier dans cette bagarre contre la COP21. Et j'avais parfois cette impression-là d'être un petit peu une sorte de mascotte musicale et j'étais super heureux de ça. Et donc oui, quand tu as en même temps ta musique, ta passion, ton art qui arrive à se connecter avec des choses très concrètes, un engagement, et tu te sens faisant partie de cette histoire-là, pour moi, c'est ultra valorisant parce que tu dis oui, ce qu'on fait par le biais de la musique, évidemment, ça converge, quoi. Et de voir ces convergences-là très concrètement s'opérer et d'arriver à prendre sa place dans une bagarre, à un moment donné, on a fait notre petite part. Moi, c'est vrai que je suis heureux à chaque fois que ça se passe comme ça.
Juste concrètement, c'était quoi cette... Est-ce que tu te souviens de la première action de désobéissance que tu as faite?
Non, mais il y en a eu quelques-unes. Mais moi, c'était l'histoire du concert dans la BNP. La banque qui nique la planète. Ça, c'était juste extraordinaire. Et c'est des choses qui reste quoi. Quand on déferle là-bas, je sais pas, à 200-300 et que t'as les cadres, les dirigeants qui sont là, mais qu'est-ce qui se passe et tout ça, mais c'est qui ces gars, c'est qui ces gens, c'est Zurluberlu, mais qu'est-ce qui se passe. Et ça c'était assez extraordinaire. Ouais.
Et le concert aussi à Pau, c'était fort aussi ça. Enfin...
Le concert à Pau, il y en a eu quelques-uns. Ouais. On a eu la chance aussi avec les copains arracheurs d'OGM aussi. On a été embarqués dans pas mal d'histoires et vraiment, je suis content de me dire voilà, que nous, musiciens, artistes, chanteurs, on est une petite partie de cette histoire-là. Quoi.
Vous écoutez à Métamorphose avec les Roulouilles.
On va maintenant repasser une interview de Cédric Héroux qu'on a eue au téléphone le 2 février dernier. Cédric Héroux est un jeune agriculteur de la vallée de la Roya qui, au moment de l'interview, attendait le verdict du tribunal correctionnel de Nice. Le procureur de la République, Jean-Michel Prêtre, requérait contre lui 8 mois de prison avec sursis pour aide à l'entrée, au séjour et à la circulation d'étrangers en situation irrégulière. Concrètement, il a transporté, soigné, offert le gîte et le couvert à des migrants. Avec les membres du collectif Roya Citoyenne, il se bat pour que les mineurs étrangers isolés soient pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, comme l'impose la loi française et les traités internationaux. Bonjour Cédric, vous vivez dans la vallée de la Roya, la frontière italienne. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qui sont ces migrants dont on parle, les raisons de leur migration et comment est-ce que vos vies, à un moment donné, se sont croisées ?
Oui, bonjour. Donc, qui sont ces migrants ? Donc, nous avons beaucoup d'Érythréens qui fuient une dictature, des gens, des familles qui partent donc du Soudan du Sud où il y a la guerre. En fait, c'est des gens qui ont traversé la Méditerranée, le désert, et qui arrivent dans nos vallées parce que les frontières en fait ont été fermées et bien closes là depuis l'attentat de Nice. Et ils se retrouvent en fait dans notre vallée qui est côté français mais bloquée dans une espèce de poche mais en France quoi. Et pour aller, parce qu'en fait, notre vallée, en fait, le bas de la vallée est italienne et le haut est française et c'est assez facile pour eux de passer de l'Italie, de Vintimille à Bray-sur-Roya, qui est donc mon village. Mais ce qui est compliqué, en fait, c'est pour sortir de cette vallée-là. Parce que donc, le sud est italienne et le nord, on arrive sur Cuneo, donc le Piémont, toujours en Italie. Et pour sortir de là, il y a beaucoup de barrages policiers, ça fait que ces gens sont bloqués dans notre vallée et ne peuvent pas demander donc pour les majeurs le droit d'asile. Et on essaye, sur un point de vue légal, de faire les démarches administratives auprès du parquet des mineurs pour qu'ils soient pris en charge par le département des Alpes-Maritimes, ce qui est une obligation du département. Mais ça reste très 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 compliqué.
Donc vous êtes venu en aide à des personnes en détresse, mais le procureur considère, lui, que vous ne respectez pas la loi. Est-ce que vous pouvez nous expliquer sur quoi il se fonde ?
Alors ça, c'est un peu compliqué. Donc je respecte pas la loi sur le fait, en fait, d'avoir... c'est ce que je faisais avant, ce qui peut m'arriver aussi par la suite. C'est que, comme je disais, donc pour aller de Bray donc à Nice, il faut passer par Vintimille, donc par le bas de la vallée. Donc on rentre en Italie et on ressort de l'Italie pour aller en France, assez particulier comme vallée. Et il m'arrive donc d'aller régulièrement en Italie, de revenir tard le soir. Donc quand je vois des gamins ou des familles à minuit ou 2h du mat dehors à Vintimille, donc je les prends en charge et les invite à aller chez moi. Et donc du coup, il y a un passage de frontière qui se fait assez facilement. Mais comme je disais tout à l'heure, ce qui est compliqué, c'est pour sortir de Bray-sur-Roya. Donc c'est un peu un morceau de France en Italie. Et donc du coup, il y a eu du passage de frontière, donc médiatisé. On a médiatisé justement pour s'en servir comme porte-voix et puis alerter les pouvoirs publics là-dessus. Et monsieur le procureur, qui est là pour faire respecter la loi sous une influence politique, hein, c'est son métier, hein, c'est voilà. Donc il est influé par le préfet des Alpes-Maritimes, qui a été mis par monsieur Valls, qui avait quand même la prétention d'être président de la République. Bon, il n'est pas très loin, mais bon, il avait quand même cette prétention-là. Et à mon avis, monsieur Valls voulait faire un peu du propre en mettant ce préfet-là. Donc ce préfet-là a été vraiment pour barrer en fait les actions des citoyens de la vallée de la Roya, de Nice, des Alpes-Maritimes, sur l'aide apportée aux migrants. Et ça fait qu'on a une pression politique et judiciaire à nos actions, quoi.
D'accord. Donc, ce qui est condamné, Cédric, en fait, c'est l'aide à l'entrée, au séjour et à la circulation d'étrangers en situation irrégulière.
Ouais.
Mais pourtant, le code pénal prévoit bien une exception, une immunité humanitaire. De quoi s'agit-il ?
Ouais, même ça, j'ai déjà eu cette immunité-là, ma première arrestation. Donc, j'avais chargé dans ma voiture une famille d'Érythréens, dont deux enfants en bas âge. Et je m'étais fait arrêter, et puis ça a été en sens suite sous l'immunité humanitaire. Mais la seule différence qu'il y a entre ma première arrestation et la deuxième, c'est le fait que ça soit médiatisé, et justement, on a fini par... Au début, on fait ça par comment dire, par instinct. Donc on voit des gens en difficulté, on réfléchit pas trop, on sait pas trop les démarches administratives pour les papiers, la prise en charge des mineurs isolés, c'est petit à petit où on se renseigne. Parce que là-bas, je suis pas un militant du tout, hein. Donc on se renseigne, puis on comprend un peu la complexité des démarches, la complexité des lois, etc. Donc, et puis on a vu, en fait, que l'État, que le préfet était dans l'illégalité sur donc, la reconduction à la frontière de mineurs isolés, hein, ce qui est systématique et illégal. Donc on a dénoncé tout ça. Donc en fait, on a eu une espèce de pression politique et judiciaire parce que en fait, on communique. Parce qu'il faut savoir, ce qui les dérange, c'est ces faits, en fait, de non-respect de la loi par l'État, en fait. Et c'est ce qui dérange beaucoup M. le procureur et nos élus et M. le préfet.
Oui, c'est ce que relève le syndicat de la magistrature, justement, dans un courrier, dans une lettre ouverte qu'il a adressée au procureur de la République, où il souligne bien que, finalement, ce qui est mis en avant aussi par le procureur de la République, c'est le fait que vous fassiez des actes militants revendiqués. Donc, il y a bien cette histoire de revendication qui dérange, qui semble déranger et justifier, entre guillemets, l'acharnement dont fait preuve le procureur, selon encore une fois, les termes du syndicat de la magistrature. Vous, Cédric, vous ne vous considérez pas comme un désobéissant civil, et c'est ce que vous nous dites justement. Vous dites en fait, moi ce que je veux mettre en avant, c'est que ce sont les autorités publiques et le département en particulier qui ne respectent pas la loi. Et d'ailleurs, avec 300 autres personnes, vous avez porté plainte contre le département des Alpes-Maritimes. Donc, est-ce que vous pouvez juste nous réexpliquer le motif de la plainte?
Donc, la plainte, après, elle est un peu compliquée, parce que est-ce que le monsieur le procureur va la prendre en compte et la poursuivre? Parce que pour porter plainte, en fait, il faut être soi-même la victime. Donc, nous, ne sommes que témoins. Ce qui est déjà quand même énorme, mais nous sommes que témoins. Donc, je ne pense pas que le procureur veuille poursuivre la plainte, et au moins faire une enquête interne. Mais en fait, on a fait pas mal d'avancées là-dessus. C'est qu'on a un réseau d'avocats, en fait, côté italien et côté français. Donc, en fait, tous les gamins qui passent dans la Roya et en Italie ont un avocat. Ça veut dire que l'avocat pourra porter plainte au nom des gamins. Donc, il va y avoir une bonne évolution là-dessus. Vous savez, les trois gamins, en fait, ma dernière, j'ai eu trois arrestations, la dernière qui date de 15 jours. Donc, où je suis sorti libre, sans poursuite. Donc, c'était quand même une garde à vue abusive. Donc, j'ai eu une perquisition à mon domicile par des gardes mobiles. Les gardes mobiles, ce sont des CRS. Hein, donc, ils sont venus casqués, armés, comme s'ils allaient pour chasser un grand terroriste. Donc, ils sont allés chez moi dans mon domicile. Et là, il y avait trois gamins, 15 ans, 16 ans et 17 ans, qui attendaient une prise en charge de l'aide sociale à l'enfance. J'avais fait des marches auprès du parquet des mineurs. Ils sont arrivés, ils ont pris les gamins, et puis ils ont reconduit à la frontière. Donc là, en fait, ces gamins ont nommé un avocat. Et là, du coup, on aura une plainte auprès du tribunal administratif pour ces actions-là. Donc.
D'accord, oui, parce qu'effectivement, le droit français impose pour porter plainte qu'on ait un intérêt à agir. Donc, c'est la personne qui est directement victime.
C'est ça.
Et voilà,
ça.
D'accord.
Et ce qui est compliqué, en fait, c'est qu'on ne retrouve pas forcément les gamins qui ont été renvoyés en Italie, parce que ils bougent à droite, à gauche, c'est le passé. Donc, c'est dur d'avoir un suivi. Donc, maintenant, on leur donne des téléphones portables. C'est pour ça que j'ai fait un appel à don de téléphones portables. Et ils auront un avocat, et on pourra enfin traquer le préfet, les agissements illégaux de la préfecture.
Récemment, vous êtes passé sur Arrêt sur Image, et justement, on a vu un petit reportage où vous veniez récupérer, enlever des enfants des mains de l'armée, en fait, qui ne réagissaient pas parce que, vraisemblablement, ils étaient en action illégale. Est-ce que vous pouvez juste relater ce petit fait?
Ouais, y a des lois, et on a tendance, sous uniforme, de les oublier. Donc l'armée n'a pas vocation à faire des contrôles d'identité ou des arrestations ou des interpellations, et ils en abusent. Ils en abusent parce que ces gens ne connaissent pas le droit français. Moi, je connais un peu mieux. Donc en fait, il faut qu'il y ait un officier de police judiciaire qui soit présent pendant ce contrôle-là, ce qui n'était pas le cas. Donc on a tout à fait le droit de récupérer les gamins, et il n'y a eu aucune poursuite, il n'y a eu rien eu par la suite. Ça prouve bien que j'ai agi tout à fait dans la loi. Et c'est ce qui dérange vraiment beaucoup, en fait, le préfet, hein, c'est qu'on a un côté où on est un peu bancal au niveau de la loi, donc sur le passage aux frontières, sur les demandes de contrôle policier, mais il y a un côté aussi où on essaye du mieux qu'on peut, en fait, de travailler sur un côté légal, quoi. Et ce qui est compliqué quand les autorités sont dans l'illégalité, en fait.
Est-ce que vous pouvez nous rappeler la peine que vous encourez aujourd'hui?
Donc, à la base, on fait ces actions-là, on risque 5 ans de prison ferme et 30 000 euros d'amende. Et le procureur a demandé 8 mois de prison avec sursis, de garde, parce que je me suis fait garder mon véhicule, en fait le véhicule associatif, de garder le véhicule et d'avoir une restriction sur le permis de conduire, qu'en journée, j'aurais pas le droit de conduire la nuit.
Et le verdict sera rendu le 10 février prochain par le tribunal correctionnel de Nice.
C'est ça, le 10 février, puis on organise une grosse journée de débats, d'informations et d'ateliers, en fait. On essaye vraiment de fédérer les différentes associations nationales et côté français, côté italien, pour essayer de créer un réseau où on puisse communiquer dans nos actions et faire des actions communes et essayer de travailler ensemble pour que le droit soit enfin respecté en France et en Italie.
Vous l'organisez quand cette journée ?
Ce sera le 10.
Aussi le 10, d'accord.
Ouais, le 10 matin, après-midi et le soir.
D'accord.
Voilà.
Juste, je veux bien qu'on revienne sur la lettre ouverte du syndicat de la magistrature. Donc, je répète, qui qualifie d'acharnement la ténacité du procureur de la République. Alors, notamment dans une affaire proche de la vôtre, hein, puisqu'elle concerne Pierre-Alain Mannoni. Donc, Pierre-Alain Mannoni qui a été relaxé, en fait, qui a été d'abord fait l'objet d'un procès pour aide aux réfugiés, hein, et qui a été relaxé. Et la relaxe a fait l'objet d'un appel par le parquet. Est-ce que vous ressentez vous-même une sorte d'acharnement ? Donc, vous l'avez dit vous-même, vous avez été en garde à vue 48 heures. Votre frère et une amie ont également été arrêtés puis relâchés. Votre maison a fait l'objet d'une perquisition. Est-ce que vous ressentez aussi cet acharnement ?
Ouais, mais bien sûr, il y a un acharnement. On est proche des élections présidentielles. Et donc, du coup, le débat était orienté, en fait, sur une stigmatisation de migrants, etc. Nous, on met en doute tout ça. On montre que derrière ces migrants, ben, y a des visages, il y a des individus, il y a des enfants, il y a des femmes, il y a des familles. C'est que ce sont des gens et non pas des paquets, non pas des terroristes comme voudrait le faire croire notre État. Donc du coup, on chante un peu cette communication là et ça dérange. Donc c'est sûr qu'au niveau politique ça dérange et on essaye de nous mettre la pression pour nous faire taire. Mais le problème c'est que ça marche pas. Et justement, ça nous motive à nous battre encore plus et puis de nous organiser un peu mieux que ce qu'on l'est maintenant. Et puis c'est assez flatteur, je trouve, d'avoir ces gens, ces hauts magistrats qui sont contre nos actions. Ça veut dire que ce qu'on fait, ben ça marche, quoi. Ça marche, même si c'est dur à vivre d'avoir les militaires qui viennent chez nous perquisitionner, d'avoir des arrestations à 3h du matin, des intimidations militaires, etc. C'est un peu compliqué. Mais ça prouve que nos actions marchent et on n'est toujours pas en prison et toujours pas pour l'instant tout va bien.
Et la médiatisation a permis la manifestation de nombreux soutiens, mais vous recevez par ailleurs des menaces. Quelle est la teneur de ces menaces ?
C'est des appels au meurtre, des menaces de mort sous identité non divulguée, ou alors ils prennent d'autres identités de d'autres gens pour. Bon, ben, je sais pas quoi trop y penser. Pour l'instant, j'ai pas eu de problème là-dessus, en espérant que ça reste comme ça, mais
Vous portez pas plainte contre X ? Là, vous auriez un intérêt à agir direct, non, pour le coup ?
Ouais, mais y a pas de nom, y a rien, donc c'est un peu compliqué, quoi.
Pour finir, Cédric, je pensais proposer au prochain bac de philo une citation d'Alain, philosophe du siècle dernier, qui dit « La justice, c'est ce doute sur le droit qui sauve le droit ». Qu'est-ce que vous pensez de cette citation ?
Alors moi, j'ai pas été longtemps à l'école, hein, donc c'est un peu compliqué pour moi.
Non, mais qu'est-ce que ça vous inspire ?
Je sais pas.
Cette idée de la justice qui est en gros de dire « Eh ben voilà, en fait, on estime que la loi n'est pas toujours légitime et donc de douter du droit, ça permet de questionner la légitimité de la loi. »
Ouais, mais c'est sûr que le droit est, de toute façon est évolutif, hein, parce que la loi doit s'adapter en fait à des situations contemporaines et donc évolutives. Donc la loi est faite pour protéger les gens et pour que le vivre ensemble fonctionne. Et elle est évolutive. Mais après, le problème c'est l'interprétation de la loi. C'est ça où il faut faire attention, là clairement en fait, hein, se dire le procureur trouve que c'est plus grave en fait de prendre quelqu'un dans sa voiture et de passer une ligne qui s'appelle une frontière que de porter assistance à des gens en danger, en plus en danger parce que l'État français a mis ces personnes directement en danger, quoi.
Et oui, oui, c'est ce que dit d'ailleurs, j'y reviens encore une dernière fois, le syndicat de la magistrature, puisqu'il dit et reproche au procureur, en fait, de distinguer là où la loi ne distingue pas. Donc on est bien sur une question d'interprétation de la loi, puisque normalement, vous rentrez complètement dans les clauses d'exception pour immunité humanitaire. Mais du coup, voilà, c'est tout est question d'interprétation. Eh bien, je vous remercie, Cédric, et on reste attentif donc au verdict le 10 février prochain. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Au revoir.
Au revoir.
Voilà, c'était donc une interview de Cédric Héroux qui a été condamné le 10 février dernier par le tribunal correctionnel de Nice à 3000 euros d'amende avec sursis. Pour rappel, avant lui, Claire, une retraitée de 72 ans, avait été condamnée par le tribunal correctionnel de Grasse, encore les Alpes-Maritimes, en décembre 2015 à 1500 euros d'amende pour avoir transporté jusqu'à la gare d'Antibes des Érythréens en situation irrégulière. Pierre-Alain Manoni, enseignant-chercheur, avait été poursuivi pour aide aux réfugiés en situation irrégulière, puis relaxé le 6 janvier dernier par le tribunal correctionnel de Nice, avant que le parquet ne fasse appel. Ce qui fait douter, bien entendu, de la suppression effective du délit de solidarité. Allez, on a bien compris que Cédric ne se considérait pas comme un désobéissant, mais on va quand même écouter « Désobéissance civile » de Kenny Arcana.
Trop nombreux sont ceux qui ont oublié le passé. L'histoire de l'homme, une honte, faut-il te le ressasser? Le monde, une spirale où les mêmes erreurs sont retracées. À force de côtoyer l'horreur, nos cœurs sont devenus glacés. Nous parlent que de profit, la condition de l'homme effacée. Mondialisation et concurrence sont leur unique phrasée. Les peuples unitairement écrasés, la création menacée. Multinationales et croissance sont tracées. Leur route sur nos libertés, ils ont juré cracher. Créer un entravera la leur à l'heure où les dictatures sont cachées. À cause de leur profit immédiat, l'avenir est gâché. Cette bande d'ingrats ont réduit la planète à un grand marché. La loi des plus riches et beaucoup crèvent avant d'être âgés. Protestations dites criminelles si tu les as outragés. Ils mentent lorsqu'ils disent que le mal-être n'est que passager. Puis s'étonnent quand la nature se rebelle comme un peuple enragé. Disaient transparents alors que de sang leurs mains sont tachées. Déconseillent fortement d'avoir des idées trop engagées. Accélération de leurs plans depuis que des avions se sont crachés. Et toi, dis-moi dans quel sens au système es-tu attaché? Ils prêchent le blasphème et la vraie lumière se fait lyncher. Tous n'est la corde au cou, dans certains pays elle a lâché. Parle de justice alors qu'à la racine ils l'ont arraché. Les plus gros engrais sur la tête de ceux qui n'ont rien à mâcher. Voilà le monde aujourd'hui, paraît que leur plan a marché. Nous vendent un progrès technique qui dans le fond a tout saccagé. Parle d'évolution quand notre humanité s'est fait hacher. Notre cœur ne bat plus vraiment et notre inconscient est fâché. Stress, angoisse, cancer, dépression, notre compte s'est chargé. Mais on ne cherche pas la cause et les effets qu'on aimerait chasser. Philosophie fast-food pour que nos consciences soient terrassées. Au nom de la dignité humaine, nous avons dit assez. Désobéissance civile. Désobéissance civile. Désobéissance civile.
C'est une résistance contre un système qui crée le terreau favorable à la haine de l'autre, au racisme et au mépris.
Le refus de coopérer, de collaborer avec l'autorité.
Même si on marche séparément, on doit frapper ensemble.
Il y a quelque chose, une injustice quelque part, on descend tous. Il y a un problème quelque part, on descend tous.
Le place, c'est de la désobéissance civile, c'est pas de la violence.
On a une place énorme, une responsabilité énorme dans ce qui s'est joué et ce qui se joue et ce qui va se jouer dans l'avenir.
Métamorphose.
Alors à présent, nous accueillons dans Métamorphose sur Radio Grenouille Anne Pessy-Clémery qui est faucheuse de chaises. Alors Anne, vous avez participé à cette campagne Faucheur de chaises menée par un collectif d'organisations militantes contre l'évasion fiscale et pour faire passer le message que l'argent pour la transition existe et qu'il est dans les paradis fiscaux. Alors est-ce que vous pourriez un petit peu nous parler de cette campagne et ce défi de mettre en image la lutte contre l'évasion fiscale qui n'était pas a priori une chose évidente, mais pourtant un pari qui a été tenu avec un accessoire très rudimentaire, une chaise.
Oui, bonjour. Donc la campagne de fauchage de chaises, elle a connu deux saisons, comme dans les séries télé. Donc une première saison qui a commencé en 2015, où L'idée était de voler des chaises dans les agences bancaires, notamment de la BNP, puisque c'est elle qui a le plus de filiales dans les paradis fiscaux. Et pour mettre en évidence le décalage qu'il y avait entre le vol que représente l'évasion fiscale et ce vol insignifiant que représente l'emport de chaises dans une agence bancaire. Et avec le pari que soit la banque considérerait qu'il s'agit d'un vol effectivement et porterait plainte et à ce moment-là on lui dirait mais enfin ce vol n'est rien par rapport à celui que vous organisez dans les paradis fiscaux, et soit la BNP renoncerait aux poursuites et à ce moment-là ça légitimerait les vols qu'on faisait. Et donc il y a eu un appel à faucher des chaises le plus possible en France, et le but était d'en voler au moins 196 pour représenter les 196 États qui devaient participer à la COP21. Donc effectivement, ces 196 chaises ont été prises par plein de groupes en France, et donc ATTAC a fortement participé à ces fauchages de chaises.
Et ces chaises ont été rendues en plus.
Et ces chaises ont été, une fois qu'on a fait le sommet de Montreuil, donc dans le cadre en marge de la COP21, on a ensuite rendu ces chaises au moment de l'ouverture du procès de Bernard Cahuzac.
Mmh. Voilà. Qui lui est connu non pas comme faucheur de chaises, mais comme faucheur de sous, voilà. Puisqu'il n'a pas payé ses... Il fallait détourner de l'argent dans les paradis fiscaux. Et, voilà, et Anne, du coup, là, tu disais qu'il y avait même eu une saison 2 là, qui avait commencé à cet hiver.
Voilà, alors donc à la fin de 2016, on a appelé à une deuxième saison de fauchage de chaises. Donc là, il ne s'agissait plus d'emporter des chaises, mais d'occuper des agences bancaires. Et là, le but ultime, c'était de dénoncer le procès qui devait se tenir à Dax et qui s'est tenu le 9 janvier contre un faucheur de chaises de la première heure, John Paley, qui était poursuivi par la BNP, puisque la BNP donc a finalement poursuivi quelques personnes. Il va y avoir un deuxième procès bientôt. Et donc là, il s'agissait de faire des actions et de leur donner de l'audience dans les médias pour dénoncer ce procès et justement pour mettre en évidence ce décalage dont on parlait, et de dire que c'était pas le procès des faucheurs de chaises qu'il fallait faire, mais le procès de l'évasion fiscale.
Et dans ce cadre, en fait, ce que je trouve intéressant, c'est le principe justement de désobéissance civile qui fait appel à de la créativité, parce qu'on a... Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ce qui a été mis en œuvre dans toutes les banques en France, là, au niveau des faucheurs de chaises? J'ai vu une classe scolaire refaite sur l'évasion fiscale, enfin, il y a eu pas mal de choses.
Ben oui, il s'est fait beaucoup de choses. Les différents groupes, puisque là aussi, il y a énormément de groupes qui ont participé. On avait appelé à ce qu'il y ait au moins une soixantaine d'actions, et je crois qu'il y en a eu 70 ou plus. Et donc les groupes ont fait preuve d'une créativité, et tout ça s'est fait dans une bonne humeur, et tout le monde avait l'air de bien s'amuser. Donc il y a des moments où l'agence a été transformée en une salle d'hôpital, puisque là aussi il manque de l'argent, et l'argent on sait où il est. Des salles de classe pour enseigner aux enfants à comment faire évader leur argent, des crèches, une salle de, enfin un tribunal, puisque la justice aussi, on sait qu'elle manque de moyens. Et donc toutes les situations, tous les services publics qui manquent d'argent ont été mis en scène dans ces agences, souvent de la BNP, mais pas seulement. Et puis toujours dans une ambiance festive, bon enfant, et toujours dans la non-violence à visage découvert. C'est le principe de base de ces deux saisons de fauchage de chaises.
Et alors, avant de faire ces actions, vous êtes formé, comment ça se passe? Comment on peut se former avec vous, peut-être, ou vous rejoindre pour agir contre l'évasion fiscale et...
Alors, je pense qu'il y a la plupart des associations qui ont participé à ces actions organisent des formations. On était évidemment beaucoup mieux organisés pour la deuxième série que pour la première, mais effectivement, on a organisé des formations, et c'est vrai que de toute façon ces actions demandent une préparation très rigoureuse, avec un briefing avant, chacun a son rôle, c'est même minuté, voilà, et un débriefing après pour pouvoir s'améliorer la fois d'après.
Et du coup, quel a été, vous parliez du procès de John Palais, hein, qui a eu lieu à Dax au mois de janvier. Quel a été justement le jugement du tribunal?
Alors c'était assez amusant parce que le procureur avait dit déjà avant le procès qu'il demanderait la relaxe, et il avait refusé d'utiliser le terme de vol de chaise, et il a qualifié ça d'emport de chaise. Donc c'était très original, très inattendu, et ça a mis un peu de sel dans tout ça. Et donc John Palais a été relaxé, il y avait au moins trois chefs d'accusation, donc l'emport, enfin le vol en réunion, c'était qualifié comme ça, et puis comment on appelle ça, il avait refusé de se soumettre au prélèvement biologique, et il a été relaxé, y compris pour ça.
Et quel est le rôle aussi des salariés dans ces banques? Est-ce qu'il y en a certains qui sont pour cette cause? Comment ils voient ça? Justement, c'est une agression pour eux, ou au contraire, certains participent?
Alors, déjà, quand on fait une action comme ça, on s'adresse, il y a des militants dont le rôle est de prendre contact avec les employés, éventuellement avec le directeur de l'agence s'il se présente, pour leur expliquer, pour leur dire pourquoi on vient, qu'ils le sachent. Et puis les directeurs en général sont pas très contents, les employés, je pense qu'il y en a pas mal qui doivent être assez amusés. Et puis c'est là qu'on fait un peu le lien avec les lanceurs d'alerte, hein, puisqu'on se retrouve un peu toujours dans le même, la dénonciation. Il y a parmi les employés gens qui ont œuvré sans doute, hein, puisqu'on a su qu'il y avait une note interne qui a été produite par la BNP à l'intention de ses directeurs d'agence pour leur dire que des actions comme ça pouvaient se produire, et que de toute façon ça se passerait bien, que c'était des gens non violents, et que voilà, il n'y avait pas lieu de rendre ces actions violentes par une répression trop importante.
Et alors dénoncer c'est bien, mais que proposez-vous à la place, en fait, par rapport à l'évasion fiscale, ou par rapport justement à cet argent, ou au système bancaire plus généralement, qui participe à cette évasion? Est-ce qu'il y a des alternatives justement à placer son argent dans ces banques?
C'est sûr que il y a à peu près 60 milliards, entre 60 et 80 milliards qui sont placés dans des paradis fiscaux chaque année. Ça représente par exemple le déficit de la France. Et puis on nous dit toujours qu'il n'y a pas d'argent pour l'enseignement, pour le
pour la transition aussi
pour tous les services publics, pour l'emploi et puis pour la transition écologique et donc voilà, nous ce qu'on dit c'est que l'argent il est là, il faut pas nous dire que qu'il y en a pas et, on sait où aller le chercher et donc on pourrait faire beaucoup de choses avec.
D'accord, et bien merci beaucoup Anne, et puis j'espère que les prochaines actions, en tout cas les prochains procès aussi, feront en sorte que les militants soient relaxés et qu'on mettra surtout le doigt sur ceux qui fraudent et qui encouragent cette fraude. Alors merci beaucoup, et puis je voulais un petit peu peut-être faire réagir Hugues sur les formations qui pourraient être possibles avec le MAN, et puis justement comment au niveau du volet éducatif, est-ce que des professeurs peuvent vous faire intervenir pour améliorer tout ça et se former à...
Alors, il y a des stages qui existent, des sessions de formation tout public. On essaye, au travers d'un institut de formation, de promouvoir ça. On travaille aussi avec qui a été évoqué, le réseau des désobéissants, là, qui eux... font des formations à l'action directe non violente, à des techniques de manifestation, aux préparations. Au niveau du volet éducatif, il y a toute une démarche qui est enclenchée mais qui n'est pas facile auprès de l'éducation nationale pour essayer de former les enseignants à la régulation non violente des conflits. Et donc il faut savoir qu'en 2013, il y a une loi, c'est une loi Peillon au niveau de l'éducation nationale qui a préconisé de former les enseignants à la régulation non violente des conflits, à la culture de non-violence. Mais le problème, c'est la mise en application de ça. Et donc les associations, le MAN et d'autres, on essaye de travailler pour faire un plaidoyer par rapport à ça, pour que cette loi soit appliquée, qu'on n'y revienne pas dessus, parce que dans la période actuelle aussi, on pourrait très bien revenir sur cette loi. Mais surtout la mise en œuvre, c'est-à-dire qu'il y a... Oui, effectivement, il faudrait que l'expertise de certaines associations profite à l'éducation nationale et qu'il y ait des formations d'enseignants sur la régulation non violente des conflits. Et il faudrait aussi même aller jusqu'à la formation des enfants. C'est-à-dire que dans les programmes officiels et dans les modules de formation, on forme les enfants à réguler leurs petits conflits. Il y a la médiation, enfin, il y a beaucoup de choses dont on a parlé. Et ce que je retiens aussi, là, ce qui a été évoqué à propos de l'action des faucheurs de chaises, c'est toute la créativité dont tu parlais. Et il y a un panel d'actions qui sont dans la démarche non violente. Donc l'humour a été évoqué. La transparence, le tiers, ce qui est important, on va dans les banques, ben on prend contact, il y a des gens qui vont prendre contact avec les employés, avec les directeurs, mais ça peut être aussi avec les passants qui sont là, pour leur expliquer, et pour leur expliquer le fond de l'action, c'est ça qui est important. Et c'est ça qui rend aussi, donc on a parlé aussi des médias, il y a eu une bonne reprise médiatique pour ça, au niveau de cette action des faucheurs de chaises. Et donc, voilà.
Bah, merci à tous pour votre participation à cette émission. Et j'espère que ça a donné envie à nos auditeurs de rejoindre ces luttes sociales et écologiques. Et puis, dans cette approche non violente. Je vous remercie tous.
Mais écoutez, on mettra tout ça en lien sur le site, sur radiogrenouille.com. Merci à nos invités. Merci à Pascal et Jean-Baptiste, mes coéquipiers. Et je vous donne rendez-vous le mois prochain pour le 13e numéro de Métamorphose. Métamorphose. Retrouvez tous nos programmes sur radiogrenouille.com.